Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre ce matin sur l'antenne d'RFI, notre débat sur la crédibilité des Nations Unies. Il y a 70 ans, le 26 juin 1945, le monde sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale et ce jour-là, les représentants de 50 pays signaient à San Francisco aux États-Unis la Charte des Nations Unies, destinée notamment à garantir la paix et la sécurité dans le monde, à développer les relations amicales entre les nations ou encore à encourager le respect des droits de l'homme. Alors 70 ans plus tard, quel bilan dresser vous, que vous inspire l'impuissance de l'organisation, notamment en Syrie, en Ukraine ou dans le conflit israélo-palestinien? L'ONU est-elle crédible? Une réforme vous semble-t-elle indispensable? C'est vrai que de plus en plus de pays réclament l'élargissement du Conseil de sécurité, la remise en cause des sièges permanents ou encore la suppression du droit de veto. 33 9 693 693 70. Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes et vous continuez également à nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission, la page officielle, RFI, appelle sur l'actualité, plusieurs centaines de réactions, 600 messages postés. C'est un sujet qui suscite, on le voit bien, énormément de passion dans vos commentaires. Par exemple, Moussa nous dit, l'ONU n'est pas représentative des nations, car on ne peut pas concevoir que l'Afrique, avec 1 milliard d'habitants aujourd'hui et 2 milliards en 2050, n'a pas un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On va voir ce qu'en pense Issoufou, qui nous appelle du Mali. Il est à Gao. Bonjour Issoufou.
Bonjour, auditeurs de RFI.
Bienvenue sur notre antenne. Quel bilan dressez-vous de l'action des Nations Unies?
Je pense que vraiment le bilan de l'ONU est obsolète, dans la mesure où aujourd'hui l'ONU est très limitée dans ses interventions, et je mets ça sur le dos de ce fameux droit de veto.
Qu'est-ce qui vous choque dans le droit de veto, Issoufou? On rappelle que ce sont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité qui disposent du droit de veto. Si un de ces 5 membres use ce droit de veto, une résolution ne peut pas être adoptée. Pour vous, c'est un privilège scandaleux, un privilège qui n'a plus lieu d'être?
Oui, je pense que c'est vraiment ce privilège qui doit être dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ONU n'est pas une religion. Même les textes coraniques aujourd'hui et bibliques sont en train d'être déformés. Donc à ce titre, je pense que l'ONU doit aller vers une évolution. Et cette évolution, c'est la suppression pure et simple de ce droit de veto. Parce que l'ONU est très limitée. Vous savez ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé en Libye, etc., etc., à travers le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'il faut aller vers la suppression de ce droit de veto.
Ouais. Vous parlez de la Syrie, on voit que la Russie, qui est un allié de Bachar el-Assad, a plusieurs fois usé de son droit de veto pour contrer des résolutions du reste du Conseil de sécurité de l'ONU, pour contrer des actions destinées à une éventuelle intervention en Syrie. Il faut donc revoir ce droit de veto. Je ne sais pas si Prince, qui nous appelle de Paris, partage la même approche. Bonjour Prince.
Oui, bonjour Juan. Il faut dire que l'ONU a 3 handicaps principaux, surtout pour ce qui concerne le Conseil de sécurité. La chaîne de décision est trop longue, c'est trop lourde. Elle ne permet pas une véritable réactivité en cas de catastrophe naturelle ou de conflit armé. Il y a également que l'autorité de l'ONU a justement du mal à s'appliquer à l'ensemble des membres. D'abord pour cause de ses droits de veto que vient de citer mon prédécesseur, et aussi parce que certaines puissances, comme les États-Unis par exemple, peuvent s'en affranchir à volonté avec une facilité déconcertante.
Vous pensez à quoi par exemple?
Je pense à l'Irak.
À l'Irak en 2003, l'intervention des États-Unis, sans mandat de l'ONU, faut-il le rappeler encore, les Américains invoquant des armes de destruction massive entre les mains de Saddam Hussein. Non seulement on n'a jamais retrouvé ces armes de destruction massive, mais à aucun moment le reste de la communauté internationale n'a officiellement, on va dire, condamné les États-Unis pour cette intervention militaire.
Voilà, il y a des cas comme ça. Il y a aussi le fait que l'ONU ne dispose pas de cantonnement de troupes prêtes à intervenir en cas de besoin sur des théâtres d'opération. Il faut constituer les équipes qui vont aller sur le terrain juste au moment où un problème se pose, et généralement quand il s'est déjà posé avec une très très lourde gravité. Ce sont là des choses effectivement qu'il faudra revoir avec l'ONU, et il y a beaucoup de choses à dire.
Et alors justement, quand vous parlez du Conseil de sécurité, sécurité. Est-ce qu'il faut revoir, comme le disait à l'instant Issoufou, qui est au Mali, le droit de veto? Est-ce qu'il faut le supprimer?
Absolument, parce que sinon l'ONU et le Conseil de sécurité sont en otage entre cinq puissances qui peuvent en jouer comme ils veulent. Donc ce n'est pas opératif en fait. Ça ne permet pas effectivement que tout le monde se reconnaisse dans les actions de l'ONU.
Et ça paralyse le Conseil de sécurité. On le voit, je citais tout à l'heure l'exemple de la Syrie. On voit bien que le Conseil de sécurité est bloqué à cause du veto russe.
Absolument, à cause du veto russe, et en général, quand la Russie donne son veto, la Chine donne le sien, et ainsi de suite. Et puis, on ne peut plus agir nulle part. Et c'est vraiment très déconcertant de voir ça. La mission de pacification du monde échoue à cause de ces choses-là.
Ouais, l'année dernière, François Hollande, le président français, avait appelé à renoncer à l'usage du veto en cas d'atrocité des droits de l'homme, comme les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. Et on a bien vu que la Russie, la Chine, les États-Unis étaient assez réticentes à aller dans ce sens, dans cette direction. C'est un vœu, en tout cas, de François Hollande. Et Amnesty International se mobilise depuis des années pour demander aux cinq membres permanents de limiter l'usage du droit de veto lorsqu'il y a effectivement des atrocités de masse comme les crimes de guerre. Merci Prince de nous avoir appelé. 33 9 693 693 70. Un témoignage maintenant, celui de Tierno. Bonjour Tierno.
Oui.
Allô?
Oui.
Vous nous appelez de Dakar, Tierno. Vous avez d'abord posté un message sur la page Facebook de l'émission. On vous a rappelé évidemment, car vous avez un témoignage intéressant. Vous étiez observateur de l'ONU au Rwanda en 1994 pour la mission du Haut Commissariat des droits de l'homme. Vous êtes arrivé sur place après le génocide et après le rôle ou l'inaction de l'ONU au Rwanda. Vous dites que les Nations Unies doivent maintenant tirer les leçons de ce qui s'est passé en 1994.
Absolument, Juan. Parce que effectivement, on est arrivé sur les lieux 3 mois après la fin du génocide, précisément en octobre 1994. Et nous étions chargés de monitorer les droits de l'homme, sa mise en œuvre, pour constater et remédier éventuellement à d'autres violations subséquentes au génocide. Alors, c'est vrai que des leçons devaient être tirées depuis lors, mais on se rend compte que l'ONU piétine, l'ONU qui est une vieille dame de 70 ans, vraiment a besoin d'être agilée, surtout dans le cadre de l'élargissement des membres du Conseil de sécurité et du droit de veto.
Juste, Tierno, pour revenir au Rwanda à 1994, il faut quand même rappeler à tous les auditeurs qu'il y avait des casques bleus qui étaient présents au Rwanda avant même que le génocide commence. Il y avait de mémoire 2000-3000 casques bleus et qu'ils n'ont pas, enfin l'ONU n'a pas voulu adapter le mandat de ces casques bleus au fur et à mesure que la situation se dégradait. C'est-à-dire que les casques bleus étaient quand même présents sur place et ils n'ont pas su prévenir ni arrêter le génocide.
Tout à fait, effectivement, il y a eu 3000 casques bleus et puis malheureusement ils sont partis avant le début du génocide, il n'en restait que 5 ans si je ne m'abuse. Et effectivement, les casques bleus ne pouvaient pas réagir parce qu'il n'y avait pas un mandat qui le leur permettait, notamment le chapitre 7. Qui permet en cas de violation massive de défendre les populations par la voie militaire, par les armes. Et c'est ce qui a d'ailleurs suscité l'émoi du général Dallaire, le général, comment ça s'appelle encore, les Canadiens. Bon, ils ont même déchiré leur béret bleu pour protester contre le manque de mandat qui leur permettait de défendre les populations civiles. Et voilà, c'est une des causes de cette violation massive qui a fait 800 000 morts, malheureusement, avec le génocide.
En quelques semaines, effectivement. Est-ce que l'ONU a tiré quelques leçons tout de même de cet épisode tragique?
C'est ça qui me déçoit, parce que depuis cette date, il y a plus de 20 ans, mais l'ONU n'a pas effectivement tiré les leçons. Bon, c'est vrai qu'on applique de plus en plus le chapitre 7. Notamment, on a appliqué en Libye et dans une moindre mesure en Irak, bon, bien que pour la deuxième guerre, parce que la première n'a pas eu le mandat, on a pris le chapitre 7, mais ce n'est pas suffisant, parce que le problème fondamental qui se pose, à mon avis, c'est qu'il faut absolument que
le droit de veto soit supprimé, parce que c'est un système de blocage qui rend inefficace l'ONU. Mmh. Et vous avez parlé tout à l'heure de la Syrie, c'est un exemple patent, où l'ONU ne peut jusqu'à présent pas intervenir. Mmh. Et la guerre en Irak, c'est ce qui a engendré effectivement la naissance de l'État islamique actuellement. Donc voilà des conséquences graves de l'inaction de l'ONU, à lenteur de sa lourdeur administrative, qui fait qu'elle ne remplit pas son rôle, le rôle que la communauté internationale attendait d'elle.
Ouais. Merci à vous, Thierno, de ce témoignage et de cette analyse. Bonne journée à Dakar, où vous nous écoutez sur les 92 FM. Les Nations Unies célèbrent leurs 70 ans. Quel bilan dressez-vous? L'organisation est-elle indispensable? Est-elle crédible à vos yeux? 33 9 693 693 70. Bonjour Patrice.
Bonjour Angomène, bonjour RFI.
Vous vous dressez un bilan pour le moins mitigé, vous?
Oui, moi j'ai un bilan mitigé, parce que si je regarde la mission pour laquelle les Nations Unies ont été créées, je me dirais que forcément ça a échoué. Mais quand je vois les agences des Nations Unies qui œuvrent sur le plan social, il y a quand même une réussite un peu mitigée aussi, parce que je me dis, si ça a été créé pour la paix, la pacification, éviter les conflits, vraiment c'est un échec total, parce qu'il y a un laxisme dans l'action des Nations Unies. Mmh. Simplement parce que je veux dire, les militaires des Nations Unies ne sont pas formés. Un professeur m'a dit tout à l'heure qu'il faut former les contingents quand il faut partir. Il manque de formation. Moi j'habite Bamako, plus récemment, il y a près de deux mois, ils ont été attaqués chez eux. Dans un quartier près de Bamako, ça veut dire que même les gens, les djihadistes, les rebelles, n'ont plus peur des Nations Unies parce que ça, les médias ne sont pas formés.
Vous faites référence au casque bleu de la MINUSPA qui est déployé au Mali, qui est présente au Mali et qui est donc présente également à Bamako. Vous êtes sceptique à l'égard de l'efficacité de ces militaires de la MINUSPA?
Très sceptique. Juan, si vous avez votre maison avec quelqu'un, votre adversaire veut vous attaquer dans votre maison, ça veut dire qu'il n'a pas peur de vous, alors que vous êtes Nations Unies, vous avez tous les moyens. Nous pensons qu'il faut une formation des militaires des Nations Unies. Puisqu'on les prend à la hâte, puisque ce sont des contingents qui sont formés, donnés par des pays, ils viennent pour des intérêts personnels. Moi, je connais, il y a des militaires qui vont voir des marabouts pour qu'on les mette sur la liste, parce qu'ils savent que quand ils vont partir là-bas, ils vont rien faire, ils reviendront avec de l'argent et construire des maisons. Ça, c'est pour des intérêts personnels et intérêts égoïstes. Ils sont même mis sur une liste par leur chef parce que simplement ils vont ramener un peu la commission parce qu'elle était sur une liste. Et en plus, Juan, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, je pense que ça va être dépassé, Juan Gomez. Ouais. Il y a des pays émergents. Et ces cinq pays qui décident pour les autres pays n'ont pas été touchés par des guerres. Les Américains, la Russie, tout ça, c'est eux qui dirigent.
Mais tous les pays les cinq pays que vous citez, les cinq pays membres, ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La France, elle, n'était pas, a bien failli d'ailleurs ne pas être membre permanent du Conseil de sécurité. C'est Churchill, à l'époque, qui avait dit, il faut absolument que les Français soient membres permanents, parce qu'ils voulaient une autre puissance européenne pour faire face à l'URSS. Mais enfin, quand on regarde la composition du Conseil de sécurité, elle ne correspond pas à la réalité de 2015. C'est ça, Patrice?
Affirmatif, ça ne correspond vraiment pas. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Regardez, dans tous les pays où les Nations Unies vont intervenir, tous les pays qui sont en conflit, il n'y a jamais eu un représentant au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que ce sont les autres qui décident de notre place. Et ce sont eux-mêmes qui sont des vendeurs des armes. Comment vous pouvez être juge et parti? Au même moment, vous attisez les feux, au même moment, vous envoyez les gens pour récupérer de l'argent dans ces pays-là, au même moment, vous devez décider sur le droit de veto. Ouais. Moi, je pense que c'est très dépassé. Il faudrait qu'on ouvre cette histoire-là. À défaut, moi, je ne suis pas pour qu'on supprime. Je suis pour qu'on garde le Conseil de sécurité.
Élargir le Conseil de sécurité. Bon, on se souvient que Kofi Annan avait essayé de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, il y a des réticences au niveau des membres permanents, mais on l'avait bien vu, par exemple, le Japon, qui est le deuxième contributeur financier de l'ONU, se plaçait en tête pour essayer de décrocher un poste de membre permanent. Kofi Annan voulait qu'un ou voire deux pays africains rejoignent ce cercle fermé. L'Amérique latine revendiquait également sa place, comme d'ailleurs l'Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, qui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci à vous, bonne journée Patrice à Bamako. Floribert, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez du Togo, on vous écoute.
Oui, moi mon point de vue, c'est un peu comme Patrice vient de le dire, c'est un bilan mitigé, mais je dirais même plus complexe. Dans le sens que il y a certaines actions que les Nations Unies ont menées qui ont été louables. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y en a aussi qui ont été chaotiques. Pas des actions, évidemment, des Nations Unies, mais c'est-à-dire l'intervention des Nations Unies a été très tardive et la fin a été chaotique. C'est ça le grand problème. Moi, j'aimerais plus parler, par exemple, de l'intervention des Nations Unies en Libye.
Oui.
Aujourd'hui, nous avons tout ce qui découle des faits ratés des Nations Unies. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye et pourquoi les Nations Unies devaient permettre, avec cette résolution qui a permis le bombardement des Nations Unies. Moi, je pense qu'à ce moment, l'Union africaine était mieux placée. Il est vrai que l'Union africaine n'a pas assez de moyens et est limitée par les moyens. Mais au moins, méprisant la situation de l'Afrique, elle savait comment arriver à mettre fin à la révolte qui était intervenue en Libye et qu'est-ce qu'il fallait faire et comment on pouvait arriver.
Ouais.
Malheureusement, les Nations Unies...
Vous savez que plus de 50% des dossiers traités au Conseil de sécurité de l'ONU concernent le continent africain. Ça vous choque qu'il n'y ait pas un pays africain dans les membres permanents?
Effectivement, il est très important en ces jours qu'on puisse penser aussi à l'élargissement, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité, voire même de membres de droit de veto. Non seulement pour l'Afrique, mais moi je pense que cela doit se passer pour l'espace du monde. Aujourd'hui, moi je veux parler aussi de l'insécurité. Avec le cas de terrorisme coréen qu'on sort dans le monde, c'est plus le monde arabe qui fournit tous ces gens-là. Il faut aussi donner au monde arabe cette chance-là d'être membre de ce conseil de sécurité afin d'amener le problème.
Ouais. Enfin, ils sont membres, attention, ils sont membres, mais ils ne sont pas membres permanents. Hein. Il y a le conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres, 5 permanents et 10 qui sont donc non permanents. Et ces 10-là changent tous les 2 ans, vous voyez. Et en tout cas, quand on regarde la composition du conseil de sécurité, il représente le monde entier, puisque normalement tous les continents sont autour de la table. L'Afrique, je crois, est représentée systématiquement par 2 voire par 3 représentants. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est peut-être donner davantage de pouvoir aux membres non permanents. Merci Floribert. Marcel, vous êtes à Paris.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Bienvenue.
Bonjour à toute votre équipe.
Merci. Pour vous, l'ONU est indispensable.
Ah, l'ONU est indispensable, quoi qu'on dise. J'ai vu que tous mes prédécesseurs parlaient de l'échec de l'ONU, mais il faut reconnaître que l'ONU a fait des choses. Je vais prendre 2 cas, principalement l'OMS, et je dirai un mot sur l'UNESCO, sur le plan de la culture, de la formation. Je prends le cas de l'OMS. La crise d'Ebola qui a eu en Afrique occidentale, s'il n'y avait pas l'OMS, ce serait une catastrophe pour toute la côte ouest.
Et en même temps, on peut reprocher à l'OMS...
C'est vrai, l'allumage a été difficile.
Ah bah, plus que difficile.
L'allumage très, très difficile. Mmh. Mais néanmoins, nos pays ont démissionné en matière de santé publique, et s'il n'y avait pas l'OMS, on aurait été dans le chaos. Ce serait la Côte d'Ivoire, le Bénin, et tous ces pays qui auraient été ravagés par Ebola.
Ouais.
Donc, il faut aussi apprécier ce que fait démembrement de l'ONU, ce qu'ils font sur le terrain, principalement en Afrique.
Mmh. Alors ça, c'est pour l'OMS. Et en 2 mots, car on arrive à la fin de l'émission, sur l'UNESCO, vous teniez à dire un mot?
C'est la culture, c'est surtout la culture, grâce à la France, la section culturelle, et puis, le patrimoine... Et immatériel, nos danses en Afrique qui sont considérées comme...
Ouais. J'ai sous les yeux le point de vue de Benoît, malheureusement on n'a pas le temps de le prendre à l'antenne, qui veut saluer les programmes de l'ONU et en particulier celui de l'UNICEF. Benoît nous appelle de Zorgo, à l'est du Burkina Faso, et il est instituteur dans une école qui est financée justement par l'UNICEF, et depuis 1998, l'UNICEF équipe cet établissement scolaire, et voilà, il voulait mettre en avant l'action de l'UNICEF sur place, sur le terrain. Merci à vous tous de votre fidélité. Demain, vos questions évidemment à la rédaction, et en deuxième partie, nous parlerons du Mali où pour la 2e fois en 20 jours, le sud du pays a été touché par des attaques djihadistes, des attaques qui étaient jusqu'ici limitées au nord et au centre du pays. Et bien hier, pendant plusieurs heures, des dizaines de djihadistes ont pris le contrôle d'une ville située juste